Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence qui sera faite par Laurent Dondrieux. Alors je suis Trudy Balter, professeur émérite à Sciences Po Bordeaux et spécialiste universitaire du cinéma. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Monsieur Dondrieux, qui est critique du cinéma à une revue qui s'appelle Les Valeurs Actuelles, et qui écrit par ailleurs sur d'autres sujets pour cette revue. Ma première question est très évidente. Comment devient-on critique du cinéma pour Valeurs Actuelles?
Alors, totalement par hasard. J'étais critique littéraire à la base, et j'exerçais cette profession journalistique comme beaucoup de jeunes journalistes débutants, c'est-à-dire dans des conditions un peu précaires. On est pigiste, on est payé à l'article et on n'est pas embauché par le journal. Et puis, jusqu'au jour où le critique cinéma maison, tout bêtement, a pris sa retraite. Et moi, j'étais passionné de cinéma depuis toujours. J'avais découvert le cinéma en famille quand j'étais enfant. On en parlait autour de la table avec mes parents et mes frères et sœurs. Et donc, quand on m'a proposé de prendre la place du critique de cinéma, j'ai dit, bien sûr, banco, allons-y. Donc, je suis devenu critique de cinéma par hasard, sans formation particulière, sauf celle que m'avaient donné mes études de culture générale à Sciences Po Paris. Et ma passion du cinéma qui m'avait permis, dans les salles du Quartier Latin, de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de classiques assez tôt.
Ah ah, c'est super, mais vous avez dû commencer très tôt parce que le livre dont on parle ce soir, c'est Dictionnaire passionné du cinéma, 6000 films à voir ou à fuir. Et alors, peut-on demander à quel taux, à quel rythme vous avez pu voir tous ces films?
Alors moi, dans mon hebdomadaire, je parle à peu près de 6 à 7 films par semaine, donc j'en vois un tout petit peu plus. Ce qui est effectivement un rythme un peu staccanoviste. Et puis effectivement, parfois, de manière peut-être un peu perverse, le soir, on rentre chez soi, on a vu quelques mauvais films récents, on se dit, tiens, je vais me laver la tête, je vais voir un classique. Donc on voit aussi des classiques le soir ou le week-end. Donc ça peut faire jusqu'à parfois 10 films par semaine, oui.
10 films par semaine. Et vous les voyez dans des salles ou dans votre bureau?
Non, effectivement, on les voit principalement dans des projections de presse qui sont organisées spécialement pour les journalistes ou éventuellement les distributeurs de cinéma. Donc ce sont généralement des projections qui ont lieu dans des salles privées entre 2 mois et 15 jours avant la sortie du film, de manière à nous permettre d'organiser l'information un peu en amont.
Ah, et vous avez eu peut-être un modèle en tête, je pense au dictionnaire de cinéma en 3 volumes publié chez Bouquin avec des volumes de Jean Tullard.
Oui, alors effectivement j'ai beaucoup pratiqué ce dictionnaire qui a un grand mérite, c'est qu'il est en 3 et même maintenant en 4 volumes, donc je ne sais pas, il y a peut-être 20 000 à 25 000 films recensés, ce qui est énorme, donc c'est relativement... complet, même si aucun dictionnaire ne peut prétendre être exhaustif, et qui est effectivement un livre très pratique. Mon modèle, c'est plutôt un autre dictionnaire qui est publié dans la collection Bouquins, que je vous recommande chaudement une fois que vous aurez acheté le mien, parce que bon, qui est le dictionnaire des films de Jacques Lourcel, qui est un monsieur qui a une réduction cinématographique énorme, qui a pour caractéristique d'avoir également été scénariste de 2 très très bons films de Pascal Thomas, qui de mémoire sont Confidence pour Confidence et Celle qu'on n'a pas eue. C'est plutôt de ce livre-là que le mien se rapproche, parce que nous partageons une caractéristique commune, c'est-à-dire que nous avons fait l'un et l'autre notre livre tout seul. Généralement, les dictionnaires du cinéma, comme la matière est immense, ce sont des œuvres collectives. Il y a 20 ou 25 ou 40, je crois, critiques dans le cas du Tullard qui s'y collent. Ce qui permet effectivement d'atteindre une forme d'exhaustivité, avec un gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'unicité de point de vue, c'est-à-dire on ne sait jamais très bien lequel des critiques est en train de rédiger la notule, et on ne comprend jamais très très bien quels sont les principes critiques qui ont guidé ses choix. Tandis que dans le cas du dictionnaire de Jacques Lourcel et du mien, comme il y a un point de vue unique, et que dans mon cas, et d'ailleurs dans le cas de Jacques Lourcel aussi, on s'est attaché à le rendre extrêmement précis et explicite, c'est-à-dire que ce soit dans mon avant-propos ou que ce soit au fil des critiques, j'essaye de rendre tout à fait explicite les critiques, les principes philosophiques, cinématographiques qui guident mes choix. Eh bien, je pense que le lecteur s'y retrouve beaucoup plus facilement parce qu'il sait très bien pourquoi, au nom de quel principe le critique juge. Et donc, que le lecteur soit d'accord ou pas d'accord, ça lui rend beaucoup plus facile de se positionner par rapport à ce que dit le critique. Parce qu'évidemment, quand on écrit un dictionnaire du cinéma, le but n'est pas que de trouver des lecteurs qui pensent exactement la même chose que vous et qui aient exactement le même jugement sur vous que tous les films, parce que ce n'est pas très intéressant. Et parce que vous n'avez sans doute aucun besoin de moi pour savoir ce que vous pensez de tel ou tel film. Mais effectivement, c'est plutôt d'établir un dialogue avec un auteur qui parle d'un certain point de vue, qui n'est pas forcément le vôtre, mais qui peut vous servir de point de repère pour vous positionner par rapport à son propre jugement. Et donc, par rapport au film que vous connaissez, que vous avez vu, et vous voyez ce qu'il en dit, vous vous positionnez par rapport à ça, et ça vous permet de voir si ce qu'il dit des autres films que vous ne connaissez pas encore, dans quelle mesure ça va vous aider ou pas à faire votre choix. Donc, cette unicité de point de vue, pour moi, est un gros avantage, même si, effectivement, la rançon de la chose, c'est que mon dictionnaire est infiniment moins complet que celui de Jean Tullard, parce que humainement, déjà avoir vu 6000 films, c'est déjà beaucoup, même si c'est effectivement une goutte d'eau à l'échelle de l'histoire du cinéma.
Ah ah, mais vous avez écrit un livre que j'ai lu en diagonale et qui me plaît bien, qui s'appelle Woody Allen, Portrait d'un anti-moderne, que vous avez fait publier en 2012 aux éditions du CNRS. Et je voudrais savoir si ce nom anti-moderne serait peut-être un adjectif que vous appliqueriez à vous-même aussi.
Oui, tout à fait. Moi, c'est un terme qui me convient bien. Je suis passé récemment sur Europe 1, invité par Frédéric Taddeï, qui ne savait pas que j'avais publié ce livre sur Woody Allen. Et on était là pour parler de mon dictionnaire passionné du cinéma. Et absolument, il me dit, finalement, si on devait résumer votre dictionnaire passionné, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est l'histoire du cinéma vue par un anti-moderne ? Et je lui ai dit, écoutez, oui, tout à fait, ça me convient bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais rédigé ce petit essai sur Woody Allen, parce que on le décrit toujours comme un moderne absolu, le prototype du bobo tel que les sociologues le rêvent. Et donc, moi qui me pense comme un anti-moderne, je me suis dit, tiens, je vais essayer de comprendre pourquoi j'aime Woody Allen malgré le fait qu'il soit un moderne. Et en fait, en étudiant son cinéma, je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on lisait un peu partout, il n'était pas du tout, à mon sens, un moderne, mais plutôt quelqu'un qui a une vision très critique de la modernité. Alors, en quoi mon dictionnaire du cinéma serait anti-moderne ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très spécifique dans la façon dont la modernité aborde les choses, et notamment l'art, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de l'art, et donc du cinéma, très souvent au formalisme. C'est-à-dire que chez beaucoup de mes confrères critiques de cinéma, c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'on va juger de la qualité esthétique d'un film, on va juger de sa qualité émotionnelle, mais on ne va pas tellement s'intéresser à ce qu'il dit sur le fond. On ne va pas tellement s'intéresser à sa philosophie, à la vision du monde qu'il charrie. Et éventuellement, si on s'y intéresse, ce qui est assez rare, d'abord, on ne va pas détailler, on ne va pas analyser en détail, et ensuite, on ne va pas critiquer cette vision. C'est-à-dire qu'on va la prendre comme un fait qui s'impose à nous, mais qui n'est pas susceptible d'être soumis à un jugement critique. Or, pour moi, la philosophie qui est charriée par un film, elle fait partie de sa valeur artistique aussi, et donc elle est susceptible de critique exactement comme l'esthétique ou comme l'émotion. Avant que cette petite causerie ne commence, nous parlions d'un film qui me paraît un bon exemple de ça. C'est le film de Costa Gavras qui s'appelle Amen. C'est un film donc qui a pour cadre la position de l'Église catholique et notamment de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui reprend une thèse qui a connu un certain succès polémique depuis une quarantaine d'années, qui est la thèse du silence de Pie XII par rapport à la Shoah, et que, effectivement, qui condamne Pie XII parce que Pie XII n'aurait pas pris position de manière suffisamment nette, voire pas pris position du tout sur cette question-là. Alors, moi, il me paraît évident quand on critique un film comme celui-là, évidemment, on doit se poser la question de savoir si le film est bien fait ou pas, si les acteurs sont bons, si le récit est bien mené, si tout ça est bien filmé, bien évidemment. Mais dans la mesure où ce film nous assène un certain nombre de faits qu'il présente comme des faits historiques, pour moi, cela fait partie évidemment du travail du critique de dire si, de son point de vue, la vérité historique est fidèlement restituée ou pas, ou si on est dans une espèce de reconstitution fictionnelle, voire, pour faire un peu de polémique, dans mon cas, en ce qui concerne ce film, je considère que ça tient un peu de la propagande. Et donc, je pense que ça fait partie du travail du critique de démonter ça. Donc c'est pour ça que une partie de la notule que je consacre à ce film dans ce dictionnaire, qui du coup est beaucoup plus long que certaines autres critiques,
beaucoup plus long,
parce que effectivement j'ai dû intégrer la critique purement cinématographique et puis une certaine forme de critique historique que j'ai pu faire parce qu'il se trouve que c'est des questions sur lesquelles en tant que journaliste j'avais beaucoup travaillé, donc j'étais un peu outillé pour le faire. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. C'est vrai pour les films historiques, mais ça peut être vrai aussi pour des films purement, je dirais, romanesques. Il y a un film de King Vidor que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Rebelle, qui est un film des années 50 sur un architecte un peu révolutionnaire qui est joué par Gary Cooper, qui est un peu une transposition de Frank Lloyd Wright, et ce qui est en fait un film qui a été qui est l'adaptation d'un roman d'une romancière américaine qui s'appelle Ayn Rand, qui est elle-même a adapté son propre livre pour ce film. Et quand on regarde le film comme ça superficiellement, on se dit bah tiens, moi c'est juste une histoire très romanesque. Et en fait, cette Ayn Rand est comment dire la figure de proue aux États-Unis de l'idéologie libertarienne. Et donc ce film est un manifeste de l'idéologie libertarienne. Donc c'est très intéressant de décrypter tout ça, d'expliquer en quoi le film expose ce point de vue et de quelle façon il l'expose. Est-ce qu'il l'expose de manière totalement objective ou de manière un peu tendancieuse ou un peu oblique? Et voilà, c'est le genre d'exercice que j'aime bien faire et qui je pense font une des spécificités de mon livre, parce que je crois que peu de mes confrères se livrent à ce genre d'exercice.
Oui, mais en tant qu'universitaire, je pense qu'il faut souligner, enfin moi, mon opinion, je crois que les historiens sont d'accord, que l'idée de vérité est très discutable. Et j'ai remarqué dans votre article sur Amen qu'il n'y avait pas de note de bas de page, il n'y avait pas de référence. La vérité, c'est la vôtre, au fait. Et vous remarquez dans votre préface la subjectivité de ce que vous dites. Vous dites aussi que vous croyez qu'il y a une vérité qui existe, mais c'est la vôtre.
Oui, ça c'est effectivement une façon de voir les choses. Moi, je suis aussi moderne parce que je crois à l'existence de la vérité. Elle ne m'a pas été révélée de toute éternité. Voilà, mais je pense que ça existe et qu'on peut s'en approcher effectivement de manière relativement objective par l'étude et par la réflexion. Effectivement, mon livre se veut un mélange de subjectivité et d'objectivité, c'est-à-dire de subjectivité dans le jugement, c'est-à-dire clairement, ben voilà, j'ai des a priori esthétiques, j'ai des goûts, j'ai une histoire personnelle qui fait que j'apprécie plus tel genre de cinéma ou tel autre. Il y a des émotions sur grand écran qui me touchent plus que d'autres, il y a des sujets qui me touchent plus que d'autres, mais en même temps, dans la façon d'analyser la qualité d'un film, j'essaye de le faire de manière objective, en ramenant ça à des choses qui puissent être partagées par le plus grand nombre. Effectivement, sur l'article sur Amen, je n'ai pas fait de... ce n'est pas un article universitaire, donc je n'ai pas de notes de bas de page. J'aurais pu en mettre parce que effectivement, tous les arguments que j'ai utilisés sont empruntés à des historiens dont j'aurais pu citer les références. Mais voilà, je restais dans le cadre d'un guide du cinéma.
Mais enfin, votre livre est édité aux éditions de L'Homme Nouveau.
Oui.
C'est un éditeur catholique.
C'est un éditeur catholique, effectivement, qui a plutôt l'habitude de... qui a même exclusivement l'habitude, jusqu'à présent, d'éditer des ouvrages de spiritualité, de théologie. Et qui voulait effectivement, à l'intention de son lectorat habituel, mais pas seulement, était intéressé à l'idée de publier un guide du cinéma qui soit rédigé par quelqu'un qui ne soit pas fermé à la dimension spirituelle et à la dimension religieuse de l'être humain. Et donc, comme il se trouve que moi-même je suis catholique et que je suis un petit peu intéressé par les questions de spiritualité, nos démarches coïncidaient assez bien.
Vous êtes également, comme vous l'avez déjà dit, très très intéressé par l'histoire. Et comme j'ai soigneusement lu tous les notules sous la lettre A, au moins,
très
je
bien.
Vais papillonner pour le reste. Mais la lettre A, je pense que je l'ai maîtrisée un peu. Et j'ai remarqué, et là et un peu ailleurs, qu'il y a une figure qui vous intéresse beaucoup, c'est la reine Marie-Antoinette. Et que vous faites des notules très très longues, pas seulement dans le cas d'Amen, mais aussi dans tout ce qui touche à Marie-Antoinette et en général l'histoire du XVIIIe siècle. Et est-ce que vous vous considérez plutôt comme historien que artiste ou artiste ou littéraire historien?
Non, historien, c'est beaucoup dire. J'ai fait des études d'histoire que j'ai menées que j'ai poursuivies jusqu'à la maîtrise, mais enfin, ça suffit pas à faire de vous un historien. Non, il se trouve que comme journaliste, j'ai été amené à me pencher sur un certain nombre de sujets historiques, notamment pour des articles que j'ai faits pour les hors-séries du Figaro, et notamment un hors-série dont j'ai rédigé une bonne partie sur Marie-Antoinette. Donc j'avais pas mal potassé la question, qui par ailleurs me passionne. Donc voilà, je pense là aussi ça fait partie des spécificités de ce livre, c'est que par la force des choses, étant critique de cinéma depuis 15 ans, j'espère pouvoir être considéré comme un spécialiste du cinéma, mais je ne suis pas que ça, puisque je fais aussi beaucoup d'autres. J'écris sur beaucoup d'autres choses, et donc parfois ça me permet effectivement d'avoir un point de vue plus large, plus informé sur certaines questions. C'est vrai que parfois, notamment par rapport aux films historiques, certains de mes confrères sont un peu démunis parce que ils ont un film sur Jeanne d'Arc ou sur Marie-Antoinette ou sur Che Guevara qui leur explique que ça s'est passé comme ça, et eux-mêmes n'ayant pas tellement potassé la question, voire pas du tout, sont un peu obligés de prendre pour argent comptant le propos du film. Moi, j'essaye, dans la mesure où je connais le sujet, et quand je ne le connais pas, j'essaye de le potasser quand j'ai le temps, de prendre du recul et de voir effectivement dans quelle mesure un film qui se présente historique, là aussi renvoie une image de l'histoire qui est réelle, romanesque, fictionnelle, polémique. Voilà, je pense que ça fait aussi partie de mon boulot. J'étais très frappé sur le cas du Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Il se trouve que j'ai eu la chance d'assister à la présentation du film lors de sa présentation au Festival de Cannes. Et donc, il y avait toute la profession mondiale réunie dans la même salle. Et donc, c'est très intéressant, ce genre de choses. C'est ce que vous avez en direct, les réactions de toute une profession, et pas seulement parisienne et pas seulement française. Et j'ai été frappé d'entendre tous mes confrères dire « Oh là là, mais bon, c'est le film est très bien, mais alors, historiquement, c'est n'importe quoi. » Et ils citaient un certain nombre d'exemples, un certain nombre de répliques. Et le problème, c'est que moi qui avais un peu potassé le sujet, je me suis aperçu que les exemples et les répliques qu'on citait volontiers comme étant totalement fantaisistes étaient souvent les plus historiques. Et que donc, ce film qui, effectivement, a des apparences très fantaisistes parce qu'il y a des anachronismes volontaires, parce qu'il y a une façon un peu rock'n'roll complètement assumé de traiter Marie-Antoinette, était en fait un film qui était extraordinairement fidèle dans l'esprit, mais aussi parfois dans la lettre, et notamment dans les dialogues, à ce qu'avait été cette phase, en tout cas, cette première phase de la vie de cette jeune reine de France.
Alors que les adieux à la reine de Benoît Jacquot, vous avez trouvé ahistorique et pas convaincant du tout.
Non, c'est-à-dire que c'est un film qui a des qualités, notamment des qualités esthétiques, parce que j'ai rarement vu Versailles Je suis né à Versailles, et moi-même, donc c'est pour ça que tout ce qui touche à Versailles m'intéresse de près. J'ai rarement vu Versailles aussi bien filmé que dans ce film-là. Par contre, effectivement, ça tombe dans un travers très souvent du cinéma historique, c'est-à-dire le petit bout de la lorgnette et l'anachronisme. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se passe autour des journées du 14 juillet, et vraiment, c'est assez étonnant de voir un film où ce qui se passe le 14 juillet à Versailles est traité de manière aussi apolitique. C'est-à-dire que la reine ne se soucie que de ses bijoux, il n'est absolument pas question de ses bijoux ou de ses amours, il n'est absolument pas question de politique. On a une vision complètement microscopique et, à mon avis, totalement infidèle, et effectivement anachronique dans la description des réactions psychologiques. Psychologique et affective.
Alors, il y a une chose qui est surprenante. Moi qui suis américaine et française d'adoption, j'ai toujours cru, et je crois toujours, que la critique française et la nouvelle vague française sont des fleurons de la culture française qui ont influencé les études cinématographiques et donné des lettres de noblesse aux études cinématographiques partout dans le monde. Et par contre, je lis dans votre préface sur les années 1960, alors vous comparez le cinéma aux œuvres de peinture, d'art, de sculpture, vous dites que vous détestez à l'art contemporain,
non,
en général,
peu,
même l'idolâtrie de la peinture.
C'est un peu réducteur de dire ça, mais c'est vrai. Qu'il y a une... Voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis
Hermétisme, même arrogance, même mépris du public, même guerre menée aux dissidents et même adoration religieuse des sectateurs.
C'est vrai que...
À ce cinéma nihiliste qui pue la mort, préférons un cinéma tourné vers la vie. Est-ce que vous allez perdre des amis en disant des choses
comme ça ? J'en ai perdu beaucoup déjà, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est l'avantage de croire en la vérité, c'est qu'il y a un moment où il y a des choses plus importantes que de savoir si on va se faire des amis ou pas. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que... voilà, c'est là vraiment on est au cœur de la question moderne-anti-moderne. L'art a toujours été considéré comme indissociable du public. On fait de l'art pour un public. Alors on ne fait pas de l'art en se modelant sur les attentes du public et en étant servile par rapport au public, mais on fait de l'art pour communiquer de la beauté à un public. Or, effectivement, la modernité se définit en art, notamment par cette perte de soucis et de rapport avec le public. C'est-à-dire qu'on fait de l'art pour faire de l'art, et si les gens comprennent ou que les gens ne comprennent pas, c'est pas la question. Et donc il y a vraiment une rupture très nette, dans l'art contemporain c'est flagrant, entre le public et les artistes. Et malheureusement, je crains que la nouvelle vague, mais pas seulement la nouvelle vague, soit en partie responsable d'un phénomène un peu similaire en cinéma, c'est-à-dire qu'on a vu se développer un cinéma qu'on dit parfois d'auteur, qu'on dit parfois cinéma de festival, que j'ai beaucoup pratiqué au Festival de Cannes notamment, qui ne se soucie absolument pas de communiquer quelque chose au public. C'est du cinéma nombriliste qui se regarde lui-même en train de faire du cinéma et qui ne se soucie pas du tout de savoir s'il communique quelque chose ou pas. Et ça a été incarné de manière assez plaisante, comme toujours, par Jean-Luc Godard, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit et beaucoup d'humour, et qui, au cours d'un des festivals de Cannes auxquels j'ai participé, lors d'une conférence de presse, répondait à la question d'un journaliste qui disait « Je crois avoir compris dans votre film que... » Et Jean-Luc Godard lui a répondu « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. » Et ça me paraît définir assez bien cette attitude d'un certain cinéma. Moi, j'avoue avoir très, très, très naïvement... d'ailleurs, oui, petite parenthèse, ce cinéma qui ne se soucie pas du public a donné naissance à une critique qui ne se soucie pas non plus d'être comprise par le lecteur. C'est vrai que vous me posiez la question de savoir tout à l'heure si je lisais les cahiers du cinéma ou positif. Non, je ne le lis pas, parce que quand je le lis, je ne comprends pas ce qu'il raconte. Je ne comprends pas ce qu'il raconte et je n'ai pas l'impression d'avoir vu du tout le même film que moi. Je m'adresse au grand public. Je ne fais pas de la critique pour les cinéphiles qui ont des théories très très savantes sur les films. Je fais de la critique pour les gens qui aiment le cinéma, tout bêtement. Et donc, je disais, oui, moi, j'ai une grande nostalgie pour cette grande époque de du cinéma que voilà, qui, pour faire vite, va des années 30 aux années 60, où vous avez des grands cinéastes qui sont d'immenses artistes, qui avaient le nom John Ford, qui avaient le nom Alfred Hitchcock, qui avaient le nom Rossellini, qui avaient le nom De Sica, qui faisaient des films qui ont des qualités artistiques immenses, à tel point que, ben, qu'on les voit toujours aujourd'hui. J'en pourrais en rajouter bien d'autres, Ozu et des dizaines d'autres, et donc des films qui ont complètement résisté aux outrages du temps et qui sont des films parfaitement accessibles par n'importe quel public et pas seulement des films pour cinéphiles extrêmement bardés de diplômes.
Oui, c'est intéressant, cette période de 1930 à 1960 dans le cinéma américain. Au fait, c'est la période du cinéma classique où les films étaient en conformité avec un code, le Hays Code de Hollywood, dont vous ne parlez pas.
Si, j'en parle au passage.
Mais il y avait une
oui.
Autocensure. Mmh. Est-ce que vous croyez que le cinéma devrait être censuré ?
Écoutez, c'est un vaste débat qui pourrait nous entraîner très loin. Moi, je pense que tout n'est pas dissible et tout n'est pas montrable. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont importantes aussi dans une civilisation, comme la pudeur, comme le respect des personnes. Donc, effectivement, je pense que la politique actuelle qui consiste à dire qu'au nom de l'art, on a le droit de montrer absolument tout et n'importe quoi, ça me paraît une erreur fondamentale, du point de vue non pas du cinéma, mais du point de vue de la civilisation. Par ailleurs, ce que je trouve extrêmement intéressant dans la période dont vous parlez, avec ce fameux code Hays, dont je parle effectivement en passant dans telle ou telle critique, qui est un code en fait d'autocensure, c'est-à-dire c'est pas du tout une autorité extérieure.
Absolument.
Qui a imposé des normes au cinéma hollywoodien, c'est le cinéma hollywoodien qui s'est dit, pour respecter notre public et pour ne pas avoir de problème avec les ligues de vertu, on va se fixer un certain nombre de contraintes. Mais moi, ce que je trouve formidable, c'est que ces contraintes n'ont absolument pas bridé l'expression artistique de ces grands cinéastes, au contraire, elles l'ont stimulé. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple tout à fait schématique, pendant 40, 50, 60 ans, on n'a pas considéré qu'il était nécessaire de montrer des gens en train de faire physiquement l'amour pour montrer qu'ils vivaient une passion torride. On trouvait d'autres moyens pour le montrer. Alors, une façon de filmer le lit, je sais pas. Et donc, voilà, on était obligé de trouver des équivalents stylistiques. Et,
les tunnels chez Hitchcock, les bouteilles de champagne
oui,
chez Lubitsch.
Oui, les fameux les fusées qui décollent, tout ce qu'on veut. Mais c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est que l'art si c'est pas du style ? Or aujourd'hui, on considère que très souvent, trop souvent, que l'art c'est de reproduire la réalité telle qu'elle est. Et il n'y a plus de recherche stylistique et donc il y a moins d'art. Souvent, il y a encore des quand on regarde les films de Wong Kar-wai ou quand on regarde les films de Paolo Sorrentino, il y a encore des gens qui font de la recherche stylistique et qui trouvent des équivalences visuelles plutôt que de dire les choses assez platement. Mais par exemple, pour prendre un exemple dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, que moi je tiens pour un assez mauvais film, mais bon. Il a beaucoup fait parler de lui parce qu'effectivement, il y a certaines scènes de sexe qui sont très crues, qui, à mon avis, d'ailleurs, sont, contrairement à ce qu'on a dit dans les journaux, totalement... elles sont prosaïques, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de stylisation. Elles sont filmées un peu comme aurait pu le faire un réalisateur de porno. Et du coup, c'est, en dehors de tout aspect moral, c'est pas très intéressant d'un point de vue esthétique. Et je pense que si effectivement il y avait une autre ambiance dans laquelle on se disait bon ben voilà, ça, on va peut-être pas filmer ça comme ça parce qu'on va respecter un certain nombre de normes de pudeur, il aurait été obligé de trouver des équivalents, il aurait filmé les choses autrement et ça aurait été esthétiquement beaucoup plus intéressant.
Et alors, en parlant des films actuels, qu'est-ce que vous avez pensé des films primés au César de cette année, notamment le film qui a raflé beaucoup de prix, 5 je crois, Les garçons et Guillaume à table, ou les Oscars américains, des films comme American Bluff ou Dallas Buyers Club. Est-ce que dans le lot des films primés cette année, il y en a qui attirent
particulièrement
votre...
Moi, j'ai été très content de voir que Guillaume et les garçons à table avaient eu autant de récompenses, parce que je trouve que c'est un film qui a beaucoup d'originalité, beaucoup d'invention. C'est à la fois très drôle, très distrayant, très brillant, assez émouvant. Et c'est... Pour moi, un film qui a un grand mérite, c'est qu'il raconte une histoire qui, comme c'est une histoire autobiographique, qui pour son auteur a certainement été très, très douloureuse à vivre, et il la raconte avec beaucoup de légèreté, justement par le biais de la stylisation, de la transposition, beaucoup d'humour, sans du tout que ça lui fasse perdre de son émotion, mais c'est à aucun moment pesant, à aucun moment animé par de la rancœur ou de la bile, alors que typiquement, dans un certain cinématographiquement correct qui règne en maître sur le cinéma français, on aurait pu imaginer très facilement, à partir de cette histoire, quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement pesant, d'extrêmement sinistre, d'extrêmement glauque. Il l'a traité dans un esprit extrêmement français, extrêmement léger, et j'ai trouvé que ça méritait effectivement d'être distingué. Sur les Oscars, je pense que c'est un système qui a plutôt tendance à ne pas récompenser les meilleurs films, parce que c'est un vote d'une très large académie composée de gens très hétéroclites. On ne sait pas très bien d'ailleurs exactement qui sont ces gens qui votent et qui sont ceux qui ne votent pas. Et donc c'est une espèce d'opinion moyenne qui n'est pas très intéressante. Moi, je crois plus au jugement individuel. Le Festival de Cannes, même si je ne crois pas non plus beaucoup au système des festivals, mais ce sont quand même plus, il y a une demi-douzaine de personnes ou une douzaine de personnes qui se réunissent dans une pièce, qui débattent. Il y a quand même quelque chose de plus direct et de plus intime qui se joue. Ce sont des jurys qui changent complètement d'une année sur l'autre. Donc parfois le palmarès est désastreux, parfois il est très intéressant. Je pense que ce sont de toute façon... c'est utile parce que ça fait parler du cinéma et qu'on ne parle jamais assez du cinéma. Mais je pense que tout ça, ce sont des épiphénomènes. Il suffit de dire que Alfred Hitchcock n'a jamais eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour comprendre que ce genre de récompenses n'ont qu'une valeur tout à fait relative.
Il y a une chose qui manque dans votre livre et j'en suis très contente. Vous ne parlez jamais d'une prétendue volonté américaine de dominer la médiasphère. C'est-à-dire, il y en a des Français de temps en temps qui disent « Ah oui, l'Amérique, c'est un problème, ils veulent nous enterrer, les pauvres Français n'ont aucune possibilité de réussir dans ce monde de brut créé par le cinéma américain. » Pas seulement le cinéma classique, mais en général, vous avez une grande ouverture à la chose américaine dans votre livre.
Alors après, je vais vous décevoir, parce que c'est pas parce que je n'en ai pas parlé que je ne considère pas qu'il n'y a pas une forme d'impérialisme culturel américain. Je pense que ça existe. Je n'en ai pas parlé parce que c'est pas mon sujet. Mon sujet, là, c'est de parler effectivement de la qualité d'un certain nombre de films pris individuellement. Il est évident que cet impérialisme culturel peut se manifester par la façon dont un certain nombre de navets intersidéraux appelés blockbusters se déversent sur nos écrans. Je les critique en tant que tel, en tant que film pris individuellement et non pas en tant que manifestation d'un rapport de force politique, qui est un sujet géopolitique qui est très intéressant mais qui n'est pas le mien. Après, effectivement, moi, j'ai une grande admiration pour le cinéma américain, qui est évidemment la grande nation du cinéma, en partie d'ailleurs parce qu'elle a su attirer. C'est une industrie qui a su attirer à elle un nombre incroyable de talents européens. C'est-à-dire qu'effectivement, qui sont les deux grands maîtres de la comédie américaine hollywoodienne, c'est Ernst Lubitsch qui est allemand et Billy Wilder qui est autrichien. Le grand maître du suspense hollywoodien, c'est Alfred Hitchcock qui est anglais. Et le grand maître du western, c'est John Ford, qui est irlandais. Donc,
il était américain.
Oui, mais enfin voilà, qui était d'origine irlandaise. Et donc effectivement, mais c'est un grand mérite du cinéma hollywoodien d'avoir su constituer une force d'attraction vis-à-vis de tous ces cinéastes, de leur avoir permis de faire du cinéma américain, puisque quand Hitchcock fait il y a vraiment deux périodes dans le cinéma d'Hitchcock, c'est vraiment intéressant. C'est toujours du Hitchcock, mais les films de la période anglaise, ce sont des films anglais, et les films de la période américaine, ce sont vraiment des films américains. C'est-à-dire qu'il a su couler son génie dans une grammaire cinématographique qui est la grammaire américaine. Et donc on dit souvent que Hollywood est une usine à rêves, c'est vrai, c'est aussi très souvent une usine à cauchemars, c'est-à-dire que parfois c'est vrai que c'est à la médiocrité de ce qui en sort parfois vous ferait dresser les cheveux sur la tête si vous en aviez. Mais, effectivement, il faudrait être particulièrement borné pour considérer le cinéma américain comme une espèce de manifestation d'un impérialisme culturel et comme quelque chose de pas intéressant. Je termine juste là-dessus pour dire qu'il y a, à mon avis, une grande qualité du cinéma américain qui malheureusement fait presque complètement défaut dans le cinéma français aujourd'hui, c'est une espèce d'absence d'hypocrisie par rapport à la qualité industrielle et artisanale du cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde est d'accord que le cinéma, c'est de l'art, mais c'est aussi de l'industrie et c'est aussi de l'artisanat. Ce qui veut dire que s'il faut se mettre à 24 pour pondre un bon scénario, eh ben, on va demander à chacun d'enterrer son ego et on va s'y mettre collectivement. S'il faut confier les films à des metteurs en scène qui n'ont jamais pondu eux-mêmes un scénario de la première à dernière ligne, comme c'est le cas par exemple de John Ford, eh bien on va pas considérer que c'est des minus parce que ils ont pas fait tout le film eux-mêmes, que donc il y a cette dimension artisanale, il y a cette dimension collective et cette dimension industrielle qui est parfaitement assumée et qui paradoxalement n'empêche pas Hollywood, notamment dans sa grande époque, de produire des chefs-d'œuvre à l'appel, plus qu'aucun autre cinéma au monde ne l'a fait.
J'étais très impressionnée par le nombre, la variété de films que vous avez inclus, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre, des navets, des films de toutes les nationalités, mais il y a quand même des omissions. Enfin, je veux dire que le livre n'est pas une histoire du cinéma, c'est pas vraiment pédagogique, c'est très intéressant. Vous avez une entrée sur l'aurore de Murnau, mais vraiment peu sur le cinéma muet, même pas Naissance d'une nation, rien de Griffith. Vous n'avez pas le Napoléon d'Abel Gance et des films que j'aime beaucoup moi-même. La nuit du chasseur de Charles Laughton, je ne l'ai pas vu.
Ah, si, vous avez mal cherché parce qu'il y est. C'est un de mes films fétiches, mais je suis un
peu.
Il m'arrive d'être un peu dyslexique au niveau du classement alphabétique, donc il est possible qu'il se trouve deux pages trop loin ou deux pages pas assez. Non, il y est. Je lui ai mis la note maximale, c'est un authentique. Je ne revendique pas du tout.
Et le voyeur de Powell, beaucoup Powell.
Non, le voyeur de Powell, ça fait partie des films que je n'ai pas eu le temps de revoir parce que je me suis interdit d'écrire de mémoire sur des films que j'avais pu voir il y a 20 ans, ce qui est le cas de Naissance d'une nation ou ce qui est le cas du voyeur, parce que je considère que j'en ai une appréciation qui est trop générale et pas assez précise, donc ce ne serait pas honnête d'écrire dessus une critique circonstanciée. Je ne revendique pas du tout les omissions en question, à part une ou deux qui sont un peu militantes, mais j'ai un peu fait du mauvais esprit en mettant pas de film de Cassavetes, qui est un cinéaste qui m'horripile. Mais
pourquoi?
Non, c'est juste que effectivement, voilà, j'ai fait ce dictionnaire tout seul dans un délai assez court. Je suis encore on va dire relativement jeune, donc j'ai pas pu tout voir et effectivement les films qui n'y sont pas, c'est simplement les grands films de l'histoire du cinéma, comme évidemment Naissance d'une nation ou Nosferatu, qui n'y sont pas, c'est juste par parce que c'est les limites de l'énergie humaine, voilà.
La lettre N, ma lecture est très très faillible.
Parce que j'ai
raté la nuit du chasseur.
Vous n'êtes,
mais comme
vous n'avez
je
pas
vous ai dit,
la
lettre A, j'ai été exhaustive. Et je voudrais lire, je vous ai prévenu que je parlerai de cette entrée, une entrée qui me dérange beaucoup. Parce que c'est un film que je vois souvent avec des enfants de ma connaissance. Et il s'appelle Azur et Asmar, de Michel Oslo, 2006. Alors, comme toujours, je parle de la dernier paragraphe, le dessin de Michel Oslo, le créateur de Kirikou, est soigné. Ses couleurs chatoyantes et son univers visuel superbe. Mais n'y a-t-il rien de plus pressé que de soumettre vos enfants, dès leur âge le plus tendre, à la propagande, à la mode, en faveur du métissage? Je pose cette question à cause de mon propre métissage, qui est presque total. Mmh. Et je voudrais savoir ce que vous voulez dire par cela.
Alors déjà, en dehors de la question de fond sur cette question du métissage, parce qu'effectivement, voilà, nous sommes là dans mon côté anti-moderne complètement assumé, moi, je suis de plus en plus gêné par une certaine forme de moralisme dans le cinéma. C'est-à-dire que... autrefois, dans les grands chefs-d'œuvre, il y avait très volontiers un point de vue moral, c'est-à-dire qu'effectivement, le cinéaste a un point de vue sur le comportement de ses personnages. On sent bien que ça ne le laisse pas indifférent et qu'il en pense quelque chose. Aujourd'hui, très souvent, mais c'est parce que le cinéma est le reflet de la société dans laquelle nous vivons et que la société dans laquelle nous vivons, je pense, est de plus en plus moraliste, on a remplacé ce point de vue moral par du moralisme, c'est-à-dire non pas une espèce de questionnement moral sur le bien et le mal, sur ce qui fonde les raisons d'agir dans un sens ou dans l'autre, mais des espèces d'injonctions sur ce qu'il faut penser ou ce qu'il ne faut pas penser. Et moi, je suis très choqué de voir qu'effectivement, on emmène en masse nos enfants voir des dessins animés en se disant c'est super, il y a des jolis dessins, il y a de la couleur, ça bouge, youpla boum. Et puis en fait, on nous assène des messages qui sont des messages idéologiques qui ne sont évidemment pas du tout assumés, mais qui sont des messages de l'ordre de l'injonction. Et donc, notamment dans les dessins animés, il y a un message récurrent, c'est que toute autorité est mauvaise. C'est quand même assez paradoxal, parce que vous allez tranquillement au cinéma avec vos gamins de 5 ans que vous tenez par la main, et on leur explique qu'il faut qu'ils rejettent toute autorité, ce qui n'est pas précisément pourquoi vous les emmenez au cinéma.
Un exemple du film ?
Non, j'en ai pas en particulier, mais enfin, si vous repassez l'histoire du dessin animé de ces 50 dernières années, vous allez en trouver beaucoup. Et voilà, il y a... il y a par ailleurs, alors pour revenir effectivement au film d'Oslo, il y a dans beaucoup de films pour enfants aujourd'hui une espèce de message très appuyé, très moralisateur sur l'ouverture à l'autre et la tolérance vis-à-vis de la différence, ce qui est très bien. Moi, je suis pour l'ouverture à l'autre et la tolérance vis-à-vis de la différence. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le ton, c'est le côté. Voilà, c'est ça qu'il faut penser. Et si vous pensez pas ça, vous êtes pas des gens bien. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire dans cette critique. Ça touche évidemment les films pour enfants. Ça touche très clairement aussi beaucoup de films pour adultes.
Des exemples
Oui, monsieur.
Parlez plus
oui.
fort,
s'il vous plaît. Jeanne et le garçon formidable. Il se trouve que je n'ai pas vu celui-là. J'ai vu. Mais j'allais vous citer un autre film qui est un peu sur le même registre, qui s'appelle Comme les autres. Qui est un film sur l'homoparentalité, ce qui est un vrai sujet qui est tout à fait digne d'être traité au cinéma. Mais là, moi, voyant ce film-là, j'ai pas eu le sentiment de voir un film de fiction. J'ai eu le sentiment de voir un film qui était fait exclusivement pour me démontrer que l'homoparentalité c'est formidable et qu'il faut être pour. Et ce qui est une position qui peut se défendre et qui est tout à fait légitime. Mais est-ce qu'on est vraiment dans le cadre d'une œuvre d'art quand effectivement on délivre ce genre de message de manière tout à fait didactique ? Moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Bon, c'est pas du tout un livre théorique. Hein. Je dis ces choses-là au hasard d'une critique quand l'occasion se présente, quand le besoin s'en fait sentir. Mais je trouve qu'on vit dans une époque qui est très paradoxale, parce qu'on vit une époque où on a l'impression, le discours dominant, c'est qu'on a évacué la morale. La morale, ça n'existe plus, c'était un truc ringard, c'était vraiment très embêtant, c'était là pour ennuyer les gens. Et donc on a jeté tout ça aux orties en mai 68, c'est formidable. Et aujourd'hui, on est dans une époque totalement libérée de la morale, et c'est formidable parce que chacun fait ce qui lui plaît. Et en fait, cette morale-là a été remplacée par une autre, qui est la morale exactement inverse. On peut en penser ce qu'on veut, on peut la trouver très bien, mais dire que... que la morale n'existe plus, c'est à mon sens une illusion totale.
Vous avez fait une conférence, j'ai vu, en surfant sur le web, qui s'intitule « Morale et moralisme ».
Le cinéma entre morale et moralisme. Effectivement, oui, j'ai fait une conférence à plusieurs reprises où j'essayais de développer un peu cette idée-là.
Est-ce que vous pouvez développer la différence ?
Je viens de le faire à un grand trait. Puis c'est vrai que c'est un sujet assez vaste et qui pourrait nous retenir assez longtemps. La morale, pour moi, c'est effectivement c'est un questionnement qu'on se donne à soi-même. C'est effectivement examiner ses actes à la lueur de sa conscience pour savoir si effectivement on a agi en vertu du bien ou pas. Le moralisme, c'est plutôt une injonction que d'autres personnes essayent de vous imposer. Des personnes qui souvent se considèrent comme des justes et qui disent il faudrait que tout le monde soit des justes comme moi et donc voilà ce qu'il faut faire pour être juste et si vous voulez que je vous mette dans la case des justes, voilà la façon dont il faut que vous vous comportiez. Donc je pense que nous sommes effectivement actuellement dans le cadre d'une société, mais là on déborde très très largement le cadre du cinéma, une société qui pense avoir évacué la morale mais qui en fait l'a remplacée par de fortes doses de moralisme.
Bon, merci à tout le monde d'être venu.
Merci d'être venu en tout cas.